Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello à tous, ici Pauline Agneau et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leur philosophie même, et mon objectif, vous l'aurez compris, est de vous aider à progresser, retirer de chaque épisode au moins un enseignement afin que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le Gratin Christophe Michalak. Vous pourrez le retrouver tout simplement sur son compte Instagram qu'il gère lui-même, Christophe-Michalak, ou directement aller sur son site internet christophemichalak.com. Je vous mets tout ça évidemment dans les liens du podcast. Christophe est l'un des plus grands chefs pâtissiers français, même l'un des plus grands chefs pâtissiers au monde en vérité. Malgré une enfance pas facile, d'origine très modeste, il est élevé par sa mère seule, il décide un jour qu'il ne sera pas une victime et qu'il va prendre son destin en main. Du petit garçon un peu dodu qui se fait charrier à l'école, va émerger l'homme Michalak. À 16 ans, après avoir commencé le kickboxing, il entre en apprentissage et enchaîne les expériences. Bagarreur, presque teigneux, combatif, il travaille 10 fois plus que les autres parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il deviendra le meilleur. Les expériences s'enchaînent, toutes plus prestigieuses des unes que les autres. La Durée, Fauchon, Pierre Hermé, le Plaza Athénée aussi. Et en 2005, il atteint le Saint Graal et remporte la Coupe du Monde de pâtisserie. En 2013, Christophe finit par lancer sa propre marque, les pâtisseries Café Michalak, entre boutique et salon de thé. C'est d'ailleurs là qu'on a enregistré l'émission. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en interviewant Christophe. Il a tout vu, il a tout fait. Les interviews, il en a fait 1000. Et pourtant, j'ai eu devant moi un homme vraiment sincère. J'irais même ému lorsqu'il se remémorait la victoire et le travail de fou qu'il avait dû fournir pour remporter les championnats du monde. Il en tremblait presque d'émotion. Michalak, c'est un nom certes, mais maintenant je sais que c'est aussi une volonté presque diabolique. Un petit garçon rieur dans un corps d'homme, de l'énergie à l'état pur et un perfectionniste qui ne laisse aucune chance au hasard. Évidemment, je ne pouvais pas avoir Christophe Michalak sur le podcast sans goûter à au moins une de ses pâtisseries. Et là, j'aurais qu'une chose à vous dire. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Christophe Michalak. Bonjour Christophe et bienvenue sur le Gratin.
Bonjour Pauline.
Eh ben, je suis ravie d'être ici, en plus dans l'atelier Michalak, c'est quand même assez génial. Je sens les odeurs en plus.
Ah ouais, c'est un dur métier, ouais, imaginez pour les poulies d'amour.
C'est dur pour moi, c'est ça. Écoute, pour commencer, je voulais aider l'audience à se projeter un peu et à vivre ta vie de chef, pâtissier. Et notamment, j'ai pensé à un moment haut en émotion. Donc tu as gagné les championnats du monde de pâtisserie, si je puis dire, avec le meilleur dessert du monde. Et si ça te va, pour commencer, je voulais qu'on se rende compte, derrière un peu le côté strass et paillettes, qu'est-ce que ça représentait dans ce métier et puis surtout, qu'est-ce que ça impliquait en termes de temps et de sacrifice. Et donc, est-ce que tu peux essayer de m'expliquer, en gros, comment ça s'est passé et notamment, quelle a été la préparation. Donc, je sais que tu te projettes un petit peu, mais j'aime bien dans le gratin aller loin. Mais juste que tu m'expliques, en gros, concrètement, qu'est-ce que tu as dû faire comme sacrifice, comme travail, comme entraînement pour gagner ce championnat du monde.
Écoute, c'est une très bonne question déjà, Pauline, je te remercie parce que j'ai plein de choses à raconter à ce niveau-là. Ah, tu sais qu'on vit dans une ère où maintenant tout le monde est champion du monde. Il y a des titres honorifiques, c'est ça, c'est très important. Les titres honorifiques, c'est primordial pour privilégier, mettre en valeur un artisan, un chef pâtissier, une chef pâtissière, ça c'est très intéressant. Et puis il y a des compétitions, donc il faut vraiment faire la différence entre tout ça. Les compétitions, il y en a beaucoup dans mon métier, mais il y en a surtout deux qui sont très importantes, c'est la Coupe du Monde. Et la deuxième étant le meilleur de France. En cuisine, c'est le Bocuse d'Or et le meilleur de France. Tu vois, c'est vraiment les deux grands concours vraiment où il faut se donner et les meilleurs sont là. Et il n'y en a qu'un qui gagne. Enfin, pas dans les MOFs. Les MOFs, il faut dépasser une certaine moyenne. Donc, tu peux être 2, 3, 4, voire plus. Mais lorsque tu es champion du monde ou lorsque tu gagnes le Bocuse d'Or, Il y en a qu'un.
Tu sais que c'est toi, quoi.
Voilà. Alors, comment ça s'est passé? Écoute, depuis toujours, déjà, je suis très compétiteur dans l'âme. J'adore ça. Il faut savoir que ce métier de pâtissier, pour être un bon pâtissier, je pense qu'il faut minimum attendre 10 ans pour maîtriser les bases. Et au-delà de ça, après, il faut se forger un mental, il faut se forger un style. Et puis, en fait, tu évolues jour après jour. Même, j'ai 46 ans, même moi, le premier, chaque jour, je revisite mes recettes et je les goûte. Et je goûte les gâteaux de mes confrères et je me remets en question tous les jours. C'est un truc que j'ai en moi et que j'adore. En fait, il y a des gens qui m'ont fait rêver dans ma carrière et c'est important parce que c'est comme moi qui suis fan de tennis, toi, les grands joueurs de tennis te font rêver par leur jeu, par leur charisme, par leur naturalité, enfin ce qu'ils sont au plus profond d'eux. Et c'est vrai que Meilleur de France et Coupe du Monde, c'était vraiment les deux concours que je voulais absolument faire dans ma vie. Alors là, je me resitue, je crois que je suis en 2003, c'est-à-dire que je suis rentré au Plaza Athénée. J'avais un rêve dans ma vie, c'était de devenir chef pâtissier dans un palace. À 26 ans, je suis rentré donc au Plaza Athénée en tant que chef pâtissier. J'avais une trentaine de personnes.
Ce qui, bon, déjà, est assez dingue quand
oui,
on y
pense.
Oui,
c'était déjà pas mal. Ouais. Sur le papier, sur le CV, j'étais très très fier de ça, mais c'est que le début. Hein. Y rentrer, c'est facile. Après, il faut durer et il faut faire ses preuves. Ouais. Donc, je suis arrivé en 2000, 2001, 2002. J'ai vraiment, vraiment construit mon équipe, essayé d'élaborer un style voilà, pour faire en sorte que la pâtisserie du Plaza Athénée soit vraiment reconnaissable entre mille. Et voilà, ça, c'est important pour moi. Et puis, comment ça s'est passé? C'était très simple. Nous sommes en 2004. Je rencontre quelqu'un de chez Valrhona. En fait, Valrhona étant le partenaire de la Coupe du Monde de la pâtisserie.
Donc, et cette personne,
voilà. Et cette personne me dit, tiens, on va lancer les inscriptions pour la sélection de la Coupe du Monde de la pâtisserie. Et donc, j'étais au niveau au rez-de-chaussée, donc à la galerie des Gobelins à l'époque, et je descends les escaliers pour atteindre mon laboratoire. Et donc, entre la discussion que j'ai eue avec cette personne et de descendre les escaliers, arriver en pâtisserie et rentrer dans mon bureau, il a dû se passer 3 minutes. Au bout de 3 minutes, dans ma tête, la décision était prise.
C'est génial.
J'ai dit, je vais faire cette Coupe du Monde. Et c'est pas je vais essayer, je vais tenter, c'est que je vais gagner cette Coupe du Monde. Il y avait, attention, je pèse mes mots parce que ça peut être très prétentieux de penser comme ça, mais il y a des rêves, il y a des objectifs. Et là, c'était pas un rêve, c'était un objectif. Et je voulais me déchirer pour gagner cette Coupe du Monde.
Non, et puis on dit, excuse-moi, t'interromps très souvent, que la visualisation un peu d'objectifs hyper précis, bah, ça t'amène quand même à y aller plus. Et moi, j'ai interviewé plein de sportifs sur le podcast. À chaque fois, ils te disent, mais en fait, dans ma tête, je savais que j'allais gagner. Et il y a un espèce de truc comme ça qui se passe chez les champions quand même.
Ouais, c'est fabuleux. C'est juste génial. Moi, je peux parler longtemps de sport parce que le sport me procure beaucoup d'émotions. Mais quelque part, cette compétitivité que j'ai naturellement et que j'ai développée dans mon métier qui est la pâtisserie, bah, je ressens à peu près les mêmes émotions, donc c'est fabuleux. Donc, donc on est en 2004, je crois. Dans ma tête, je me dis, OK, je fais ce concours. Et là, ça veut dire qu'il faut savoir que la sélection Coupe du Monde, ça se passe en 3 phases. Tu envoies ton CV à une organisation de la Coupe du Monde. Ils choisissent, donc tu as, je sais pas, une centaine de CV, ils choisissent. Il y a 3 parties. Il y a une partie chocolat, une partie sucre et une partie glace. Ça veut dire que tu vas concourir, voilà. Donc ils choisissent les. Hein, on reçoit un courrier, vous avez été sélectionné. Alors sur le coup, je me suis un peu marré. J'ai dit, heureusement, j'ai été sélectionné. Je suis là pour gagner, quoi. D'où
c'est vrai que ça aurait été dommage. Ça aurait été difficile de gagner sans être sélectionné.
Le mec t'envoie un joli courrier avec ton CV. J'avais bossé quand même au Japon, aux États-Unis. J'avais fait les plus grandes maisons. J'étais parti chez La Durée, chez Fauchon. Enfin, bon, j'avais. Je pense que j'étais un bon client, ouais. Donc bon, sur le coup j'ai dit, ok, bon, ça c'est fait, mais pour moi il n'y avait pas de discours à ce niveau là et j'ai eu, je crois, presque 8 mois devant moi pour préparer la sélection Coupe du Monde. Alors qu'est-ce que c'est la sélection Coupe du Monde? Bien, c'est un espace, bon, à l'époque je crois que c'était pendant le salon de chocolat, et il y a en fait, tu dois réaliser en 8 heures de temps. Alors pour ma part, moi qui étais dans le sucre, c'était une pièce en... Alors c'est très décevant maintenant quand je repense à ça, mais c'est une pièce artistique avec du sucre cuit, du sucre soufflé, ce qu'on appelle du pastillage, qui est un mélange de sucre glace, de vinaigre et de gélatine. Et voilà, tu fais une sorte de pièce artistique. Hein,
c'est pas fait pour être mangé, c'est vraiment fait pour être beau.
Tout est alimentaire. D'accord. Tout est alimentaire, voilà. Et donc moi, je devais faire cette pièce artistique en sucre avec un entremets chocolat. Voilà, le meilleur, celui qui... Alors tu es jugé sur 3 critères. La dégustation, l'artistique et le travail. Quand on dit travail, c'est le mec, si tu t'organises bien, si tu travailles proprement, enfin, tu travailles comme un chirurgien, hein, tout est millimétré. Et donc là, c'est tout ce que j'aime ça. Dès que j'ai su, je me suis préparé comme un dingue. Par contre, je manquais un peu de pratique. J'étais quand même, j'avais, à l'époque, j'avais 29 ans à peine. Donc toi, j'avais fait des concours, mais là, c'était un concours sur place. C'est-à-dire que t'as pas 5 à 6 mois pour peaufiner une pièce.
C'est ça, tu t'entraînes avant, mais en fait, tu dois le réaliser après sur place.
Tu réalises tout sur place en 10 heures, en 8 heures de temps. Il faut tout faire. Donc, je vais bosser comme un chien. J'ai demandé des conseils à certains amis. Et j'ai bossé. J'ai fait des centaines de gâteaux au chocolat. Et on m'avait dit, attention, le point de départ, c'est que quand tu manges ce gâteau au chocolat, ça sent le chocolat noir. Au milieu, il peut y avoir des petites acidités d'orange, de passion, de banane, ce que tu veux. Mais à la fin, tu restes sur le goût chocolat. Donc, j'étais parti ça avec ça en tête. J'ai récupéré toutes les photos de toutes les coupes du monde depuis plus de 10 ans. J'ai tout analysé. Je suis une machine de guerre. J'ai bossé.
T'étais en mode machine.
J'ai commencé à dessiner mes pièges. J'ai commencé à trouver des sponsors pour avoir un peu d'argent, mais
du budget pour pouvoir aussi.
Du budget pour des moulons silicone, des choses comme ça. Donc j'ai beaucoup bossé dessus.
Ouais.
Et j'arrive avec des éclairs dans les yeux, façon Mohamed Ali contre Georges Foreman. Je suis là pour tuer. Hein. Je suis pas là pour rigoler. Je suis pas là pour serrer les pinces. Je suis là pour tuer.
Non, t'es là pour gagner, on a compris.
Et en fait, donc il y avait trois. Moi, je suis passé en premier. On était 8, je crois, en pièces en sucre. Donc pendant 8 heures. Le lendemain, il y avait, je crois, 3 concurrents ou 3 ou 4. Non, pardon, plus que ça. Il y avait 6 concurrents pour réaliser une pièce au chocolat et un dessert à l'assiette. Et le troisième jour, il y avait 2 candidats pour réaliser une pièce en glace sculptée et un entremets glacé. Voilà. Donc, on a tous 8 heures. Le meilleur de tout ça, le meilleur en chocolat, le meilleur en glace et le meilleur en sucre sont sélectionnés, font partie donc de l'équipe de France. Et dans ces trois-là, le mec qui a eu le plus de points est déclaré capitaine de l'équipe de France. Alors, dans ma tête, lieutenant ou sergent, ça ne m'intéressait pas. Je voulais être capitaine et je voulais surtout passer parce qu'il y avait quand même des très gros clients. Il y avait des mecs qui avaient fait 2 fois la finale de Miroir de France. Il y avait des gars qui revenaient pour la 2e ou la 3e édition de la Coupe du Monde.
Donc il y avait une bonne compétition.
J'étais un des plus jeunes, certainement le plus jeune. Ah oui, moi j'étais bébé cadom, quoi. Mais voilà, le Rocky Balboa en puissance, je suis arrivé sûr de moi. Et j'avais fait une pièce artistique à l'époque très stylisée.
Déjà dans le style Michalak actuel ou pas du tout?
Non, pas du tout, non. Non, mais j'étais parti sur l'amour, Cupidon, gnagnagna.
D'accord.
J'étais très fort dans le sucre tiré. Hein. Ça te paraît un peu ringard comme ça?
Mais
surtout,
je ne sais pas ce que c'est, le sucre tiré.
J'en ai pas touché depuis des années maintenant, mais le sucre tiré, j'en ai fait pendant des années quand j'étais chef décorateur chez Fauchon et chez La Durée. C'est du sucre avec un peu d'eau, cuit à 170 degrés. Tu remues cette masse avec des gants et tu l'as un peu comme le travail d'un souffleur de verre.
Ouais.
Tu étires un peu cette masse, donc tu la satines, tu la corpores un peu d'air, elle brille, et après c'est sous une lampe chauffante, donc c'est très chaud tout ça, hein. Et bien tu fais des pétales, et tu fais plusieurs pétales, et ces pétales tu les colles avec un petit chalumeau et ça fait une fleur. Alors je te parle de ça maintenant, ça me paraît totalement désuet, mais à l'époque, je jouais ma vie, faire les plus belles roses en sucre, faire le plus beau ruban, c'est une technicité extrême dans le décor, ça n'apporte rien dans le goût d'un gâteau, hein. Mais il fallait passer par ça pour être reconnu. Il fallait savoir, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, pour être connu et reconnu dans ce métier, pour gagner
ta légitimité.
Ta légitimité par tes pairs, il fallait gagner des concours. Sinon, tu étais mauvais, quoi. Donc, il faut savoir que Pierre Hermé a fait aussi la sélection Coupe du Monde, la première sélection Coupe du Monde. Enfin, il n'y a que des cadeaux qui ont fait
cette... Il a gagné
Non. Il a été recalé.
Oh là
ça
là,
n'empêche que quand tu connais...
Pas.
Moi, c'est un de mes meilleurs amis, quand tu connais... Le parcours de l'homme, il n'a pas eu besoin de ça pour grandir. Mais en tout cas, à cette époque-là, il fallait passer par ça. Alors, je fais ma pièce, pour te dire, parce que j'ai un souvenir très précis, je fais donc mon gâteau au chocolat. Bon, après, je suis Speedy Gonzalez. Il faut savoir que tous ceux qui me connaissent te diront que c'est pas que je suis sanguin, je suis sur ressort et je travaille très vite, je suis très concentré et j'aime beaucoup l'efficacité, donc je réfléchis énormément pour gagner du temps. Et j'ai fini, je crois, 1 heure avant tout le monde. Et j'ai pas pu bouger de l'estrade. En fait, j'étais obligé de rester derrière ma pièce.
Même si
t'avais
terminé.
Pendant 1 heure de temps, j'attendais que tout le monde finisse. Et tout le monde était à l'arrache, tout le monde courait partout. Et moi, j'avais mon plan de travail nickel. Tout était nickel. Et j'avais une pièce qui faisait, je sais pas... En général, les gens font des pièces en sucre qui font 80, 90 cm de haut. Moi, elle faisait 1m60. Tout de suite, voilà. Pouf,
t'as posé le truc.
Ah, j'ai posé le truc direct. Et à un moment donné, j'ai eu... c'est fou comme quoi, t'as beau... peser, parce qu'il faut remplir toutes ces matières premières et tous ces instruments, il faut dresser ça dans un camion. Le camion, il faut l'aménager. Enfin, il y a tout cet esprit de transport qui est assez lourd. Hein. C'est pas aussi simple que ça. Et ce jour-là, la seule chose que je n'avais pas faite, il me manquait de l'acide tartrique. Ça va rien te dire, ça. L'acide tartrique, tu en mets quelques gouttes quand tu fais ta cuisson de sucre. Et ça permet d'apporter une certaine, pas une résistance, mais une souplesse à D'accord. ton sucre. Ça te permet d'avoir un sucre un peu plus souple. Si tu ne mets pas ça, ton sucre est très chaud et très cassant, très brûlant. Et en fait, tu n'arrives quasiment pas à faire ce que tu veux. Et j'avais un ruban. Donc, un ruban, c'est des boudins de sucre colorés, du rouge, du noir, du blanc, nanana. Mm-hmm. C'est la partie la plus technique de ce métier-là. Et tu dois le replier en 4 fois, voire 5 fois. Donc, j'étais le roi du ruban et le roi des roses en sucre.
D'accord.
Et ce jour-là, c'est mon sous-chef qui avait fait les pesées de cet acide tartrique. Et en fait, il s'est trompé et je m'en suis rendu compte bien après.
Tu devais être assez foudrage.
Bah, non, mais bon, voilà, j'avais qu'à le faire.
Sur le coup, t'avais pas le choix, quoi.
C'est le seul truc que j'ai délégué et c'est même pas de sa faute. Hein. Il s'est trompé, il a pris la crème de tarte au lieu de prendre de l'acide tartrique. Hein. S'il y a des pâtissiers qui m'entendent, ils vont tout de suite comprendre.
Moi, je comprends rien, mais je suis sûr que c'est très...
voilà. Et en fait, lorsque j'ai fait mon ruban, tout le monde... tous les jurys sont venus vers moi parce qu'ils savaient que c'est le moment ultime, quoi. Et en se disant, tiens, Michalak, et je devais, en plus à l'époque, il faut savoir que j'étais pas mal médiatisé par rapport à mes confrères, donc il y a un peu de jalousie derrière tout ça. Donc je vois que tous les jurys viennent me voir, des meilleurs de France, des champions du monde, et là je vois tout de suite qu'il y a un truc qui va pas, que mon sucre est brûlant, très sec, et finalement je fais mon tirage de ruban, donc qui est très technique. Et paf, il explose en morceaux. Donc je le fais une fois, je le fais deux fois. Et je sais que j'avais prévu de faire 3 tirages et j'avais juste ce qu'il fallait, etc. Et les 2 premiers tirages, en fait, m'explosent dans les mains tellement le sucre est brûlant et sec. Et là, je vois que tout le monde me regarde et dans leur tête, ils doivent se dire « Ah bah c'est fini, ça, Michalak est gentil, quoi, mais là, c'est fini pour lui. »
Quelle horreur.
Et là, j'ai trouvé... Il n'y a que les pâtissiers qui vont comprendre, mais en fait, j'ai réchauffé sous ma lampe et au micro-ondes ce sucre et je l'ai tiré, mais ultra brûlant, à la limite de... En fait, quand je tenais ces rubans dans mes mains, ça me brûlait, j'aurais pu pleurer tellement c'était brûlant. Et j'ai tiré, j'ai plié 4 fois de suite ce ruban, j'ai réussi à le sortir, j'étais dans une concentration dingue, et je l'ai tiré, et je crois que d'ailleurs j'ai sorti le plus beau ruban de ma vie, avec plein de couleurs multicolores, enfin voilà, c'était un truc de dingue. Et quand je l'ai sorti, je l'ai posé sur ma table, j'ai relevé la tête et j'ai été tous regarder, vraiment comme si je l'allais leur sauter sur eux, en disant « Ouh, j'ai réussi, quoi. Regardez-moi bien, parce que c'est moi qui ai gagné ce concours. » Puis après, voilà, j'ai finalisé, puis j'ai gagné haut la main. Enfin, j'ai été sélectionné haut la main et désigné capitaine. Voilà, ça, c'est la sélection coupe de, si tout le monde nous suit.
Incroyable. Enfin, c'est incroyable. Et puis surtout, moi, je suis assez fasciné quand tu me dis « c'est 8 heures ».
Oui.
Et je connais pas grand chose à la pâtisserie, mais pour moi, c'est quand même un métier qui est hyper méticuleux. Tu me parles, tu sais, ton plan de travail qui est tout nickel, hyper organisé. En plus, tu finis 1 heure avant tout le monde. Mais je suis assez fascinée par le fait que tu arrives à être aussi concentré pendant 8 heures de suite. Ça, pour toi, c'est lié à l'entraînement?
C'est la niaque, c'est dans la tête. C'est comme un Djokovic qui garde une concentration pendant 2 heures. C'est tous ces sportifs de haut niveau ou ces médecins. Moi, j'ai un beau-frère qui est chirurgien, c'est mon idole. Qui sauvent des vies, qui ont une concentration ultime. Et je trouve qu'à un moment donné, ce qui fait la différence, c'est ça. C'est d'être concentré, répéter tes faits et gestes. Puis le jour J, ça passe, quoi. De toute façon, moi, ça ne pouvait pas ne pas passer. Ça, j'aurais pas du tout accepté la défaite ou la place de numéro 2. Donc, je finalise mon histoire. Là, on est sur la sélection. Et j'ai à peu près 10 mois devant moi pour, avec mes nouveaux collègues que je connais pas... À l'époque, un Philippe Rigolo, qui était le chef pâtissier d'Anne-Sophie Pic, qui était à Valence, qui est devenu mon frère d'armes, parce que vraiment, j'ai partagé des trucs incroyables avec lui. Il y avait un autre garçon qui s'appelait Frédéric Deville, qui était dans la glace. Alors, si tu veux, souvent, la mayonnaise, elle marche, parfois, elle marche pas. Là, on n'a jamais vraiment réussi à faire une team à 3. Non, t'as pas le choix. Ouais. On n'a pas vraiment réussi à faire une team parfaite à 3, parce que déjà, on était quand même séparés. Moi, j'étais à Paris, il y en avait un qui était... je ne me rappelle plus, dans les montagnes, et le troisième qui était à Valence. Donc c'était un peu compliqué, et tout de suite, j'ai pris mon rôle de capitaine. J'ai acté chaque mois une dégustation, rencontre tous les 3. Moi, je travaillais donc l'entremets chocolat, la pièce en sucre. Copain Philippe Rigolo sur la pièce chocolat et le dessert à l'assiette. et Frédéric Deville sur l'entremets glacé et la pièce, la sculpture glacée en fait. D'accord. Voilà. Et en fait, ce qui était génial, c'est que au niveau humain, tu partages des choses comme un peu, j'imagine, l'équipe de France de football. Avec Philippe Rigolo, voilà, je me suis trouvé un frère d'âme, un mec génial. Edouard aux mains d'argent, tu vois, un type. Moi, je suis Speedy Gonzalez, je vais à 200 à l'heure. Et lui, il est plus en retenue, mais toujours dans la finesse. Et donc, tout de suite, j'ai vu que j'étais un peu le meneur, j'avais beaucoup d'idées, je dégrossais le travail.
Et lui, il était là pour dérouler après.
Et après, c'est lui qui l'affinait, il affinait. Et on a fait un travail tous les deux remarquable. Alors, t'imagines, 10 mois, c'est long. Encore une fois, il faut trouver des financements. À l'époque, il y avait. Donc, on est en 2005. Donc, toi, on est quand même. Facebook n'existe pas.
Oui,
on est,
c'est ça.
On commence tout juste à avoir des smartphones avec des emails, etc. Et j'avais retrouvé des vieilles photos, des box, parce qu'en fait, c'est des box qui font 3 mètres sur 6 mètres. Et j'avais, et personne, en fait, on t'a pas les plans. Donc, j'avais bidouillé. Et j'avais vu que, bon, grosso modo, ça faisait 3 mètres sur 3. On est 3 à travailler là-dedans, avec un accès au congélateur, un accès...
C'est que 3 mètres sur 3, c'est pas énorme.
3 mètres sur 6, pardon.
Ah, d'accord.
Et en fait, j'ai configuré un espace. J'avais eu un peu d'aide du Plaza Athénée. Et j'avais fait faire des meubles sur mesure, parce qu'il y avait un service menuiserie, donc on avait été très chanceux. Et j'avais, d'ailleurs, je vais te raconter plein de choses là-dessus. J'étais parti donc à l'école Valrhona qui est un ermitage et tout le samedi, donc on a fait 10 examens blancs. Je me comprends. Le samedi, on arrive, on m'appelait Linda de Souza parce que je venais avec une grosse valise et dedans j'avais toutes mes pesées, etc. Le samedi, on se mettait en place, c'est-à-dire que je mettais tous mes meubles et je refaisais le box comme le jour J. On faisait toutes nos préparations, toutes nos pesées au réfrigérateur, au congélateur ou à température ambiante. Et le dimanche, j'avais fait venir des amis meilleurs de France, des amis champions du monde, et je leur disais, écoutez, je voudrais que vous faites comme le jour J, vous êtes devant moi, vous regardez, vous notez, vous marquez tout ce qui va pas, et puis 10 heures plus tard, quand on dresse le buffet, vous me dites, bah, écoute, là, vraiment t'es merdé, ça c'est pas bien, ça c'est pas si, c'est... Voilà, j'avais gardé ça en tête, et j'ai fait venir 10 copains différents. Même un peu plus, qui se sont relayés pendant ces 10 examens blancs. Et le dimanche, quand on met le top départ, donc concentration extrême, ça veut dire que tout ce que je vais faire, je l'ai déjà réalisé pendant des heures et des heures et des heures. J'ai un emploi du temps. Je sais exactement quand est-ce que je dois lancer ma
minute
cuisson
par minute.
Quand est-ce que je dois lancer mon biscuit, quand est-ce que je dois. C'est comme je suis devant le public. C'est moi qui envoie les dégustations, j'envoie l'entremets chocolat, j'envoie l'entremets glacé, c'est moi qui le finis, et j'envoie aussi, là par contre avec mon pote Philippe Rigolo, on envoie le dessert à l'assiette, on le dresse tous les deux, etc. Donc voilà, tout est acté, j'ai mes petites barres protéines qui sont rangées à tel endroit, je sais que j'ai deux pauses pipi,
Ah ouais, donc le truc,
heures,
est, quand on dit millimétré, c'est même pas millimétré.
Ah non,
mais
je suis Redman moi là-dessus, j'ai tout enregistré, tout est programmé. Et donc voilà, et alors je vais pas te mentir, le premier entraînement c'est pas mal, mais c'est pas ça. Le deuxième, bon, est encore à désirer. Et puis j'écoute beaucoup ce que disent mes confrères et je me dis, ah, c'est vrai, là j'ai fait un élément où en fait c'est pas très intéressant. Pendant 3 heures, je fais à peu près la même chose et c'est vrai que c'est un peu fatigant. Donc j'ai rétréci en fait tout ça et je me suis dit, ok, je vais travailler en fait comme si c'était devant un amphithéâtre. J'avais fait faire une planche en bois qui fait 40 sur 60 cm. Et je me suis dit, je vais travailler comme s'il y avait une caméra qui regardait mes mains. Et je travaille que sur cette planche en bois. Et je range tout au fur et à mesure. Et il n'y avait rien sur ma table, alors que tout le monde a un milliard de choses devant moi. J'avais strictement rien. Tous mes meubles avaient été faits en blanc. J'avais mis des papiers film blancs aussi sur mes échelles. Donc en fait, tout ce que je faisais était rangé. Et les membres du jury ne voyaient à rien de ce que je faisais, ni mes confrères, parce que j'avais organisé le travail pour que tout le monde travaille
pareil. Les mecs
devaient
se dire, mais c'est sorti nulle part, quoi.
En fait, c'est ça qui était très impressionnant, c'est que les mecs disaient, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, l'équipe de France? On voit rien. On a vu que lui, là, il avait préparé un requin sculpté en chocolat. Là, on ne voyait rien. Et donc, j'avais anticipé tout ça pour que, au dernier moment, on puisse monter tous les éléments de la pièce. Et en fait, en moins d'une heure, parce qu'en fait, j'étais parti d'une expérience où lorsque tu vois quelqu'un monter sa pièce pendant 8 heures, tu vois la structure, hein, comme quand tu montes la tour Eiffel,
Et à la fin, en fait, t'es pas épaté. Parce que ça fait 8 heures que t'es devant cette pièce et ça fait 8 heures que tu le vois galérer et tu le vois monter. Alors que si tu vois rien et qu'en une demi-heure, bram, tout est là, et ben là, tu te prends une claque. Hein, tu te dis, mais c'est fou. Et le problème qu'on a eu dans cette équipe, c'est que donc on avait un troisième glacier qui était pas vraiment, qui faisait pas vraiment, enfin qui donnait pas vraiment de sa personne, qui était pas vraiment avec nous. Donc il travaillait vraiment lui de son côté. Nous, on a travaillé main dans la main avec Philippe. Et je savais qu'en termes de sculpture sur glace, on était un peu faible par rapport au Japon, aux Coréens, qui sont des bêtes de concours. Et je savais qu'on allait perdre beaucoup de points là-dessus. Donc j'ai tout de suite dit à Philippe, il faut qu'on soit absolument premier en dégustation. Il faut qu'on soit premier en artistique et premier en travail. Parce que, en tout cas sur la pièce chocolat et la pièce en sucre, parce qu'en niveau glace, on va perdre beaucoup de points et si on veut gagner, il faut qu'on soit les meilleurs. Donc quelque part, on a pris le lead avec Philippe à ce niveau-là. Et voilà, on se prépare. Le jour J arrive. J'avais été voir un docteur pour être suivi. Qu'est-ce qu'il fallait que je mange, comment il fallait que je me prépare, ouais, je faisais pompe abdos tous les matins.
C'est une compétition sportive, le truc. C'est vraiment... 8 heures de suite, en même temps, c'est...
Pourtant, tu fais des gâteaux, hein. On n'a pas fait des pompes.
8 heures de suite, en même temps, c'est un marathon, le truc. Enfin, c'est...
Ouais, alors c'est 10 heures. La finale est sur 10 heures. Et en fait, tout est dégusté. T'as une grande table devant toi avec des jurys. Il y a 20 jurys, 20 pays. Tout est dégusté, tout est noté. C'est rentré dans l'ordinateur et le premier gagne. Le premier en chocolat, le premier en sucre, le premier... Donc moi, j'avais tout organisé dans ma tête. Enfin, tout était... On était à fond. Je vais te dire un truc qui me fait toujours frémir. Avant de rentrer dans les starting blocks, dans ces box, il y a un compte à rebours qui est donné. Et nous, on était... En fait, tu as 10 équipes qui passent le dimanche et 10 autres équipes dans les mêmes box qui passent le lundi. Et ensuite, c'est un autre concours qui s'appelle le Bocuse d'Or, juste derrière. Et pour moi, les plus dangereux, c'était l'équipe belge, qui était numéro 3. Et nous, on était numéro 8 sur les 10 box. Et avant de rentrer, j'entends le compte à rebours. Donc 10, 9, 8. Moi, je t'explique pas, j'avais des éclairs dans les yeux.
T'étais comme un dingue.
Bah, j'étais là pour tuer, quoi. Et je pense que ça transpirait. Et je regarde à droite, donc je vois l'équipe belge qui sont ultra stressés, prêts à rentrer dans leur box. Donc je regarde numéro 4, feu. Numéro 5, numéro 6. Et je me tourne pour voir les deux autres équipes, la 9 et la 10. Et je croise le regard de mon ami Philippe Rigolo, qui est quelqu'un de très discret, de très pudique, toujours en retrait, c'est toujours moi qui est rentré dedans, dans tout le monde, avant qu'il ait pu parler. Et là, je peux te jurer, même en parlant 10 ans plus tard, j'ai les poils qui se hérissent, j'ai croisé son regard, et j'ai croisé la même intensité, tu vois, ce regard de... comme quand tu vas courir en athlétisme, le 4x100 mètres
ouais,
relais.
Ouais,
on est là les gars, c'est comme en Coupe Davis quoi, on est là pour gagner quoi. Et ça on était tellement
ouais, la résolution dans le regard.
Ah, c'était fabuleux. Et là je le dis à tout le monde à chaque fois, je raconte souvent cette histoire, quand je l'ai vu, quand on s'est croisé, on a eu une intensité dans le regard et j'ai entendu le 2 1 et dans ma tête, je me suis dit on a déjà gagné. Et après moi je raconte pas là, je l'ai fait j'avais en bref, mais on était chacun dans notre truc. Moi, j'ai bombardé comme d'habitude. J'ai fini une heure avant tout le monde, comme d'habitude. Et en fait, voilà, j'ai sorti l'entremet comme il fallait. Et je savais qu'on était bon dans
tout la dégustation. Tout a été dans le plan, comme prévu.
Oui, toujours des trois petits trucs, surtout en glace. Il y a toujours des trucs à l'opin.
J'ai bien compris.
Mais franchement, non, zéro problème. Et puis, il fallait savoir que cette pièce, sur le buffet, la pièce en glace était à part. Et sur ce buffet, tu avais la pièce en sucre, la pièce en chocolat. Tu avais une grande table d'1 mètre 50 ou 2 mètres, je crois, sur 60 cm de haut. Et tu pars, en fait, tu as une planche qui fait 40-60 et tu ne dois surtout pas dépasser cette planche. Donc encore une fois, toutes les équipes ont une pièce 80-90 cm maximum pour rentrer dans cette... Non, je me marre en y repensant parce que j'ai vraiment été fou à cette époque-là. Il fallait que ça rentre dans cette plaque. Bon, bah qu'est-ce qu'il a fait Bibi? Bah, j'ai fait une pièce d'1m90.
Ouais,
il fallait que dans les gradins, on ne voit que nos pièces. Donc avec Philippe, on avait bossé déjà énormément là-dessus et on avait élaboré de faire en fait deux pièces qui sont collées. Alors je me comprends, ma pièce était scindée en deux et elle était collée. Sauf que pour la coller, il faut savoir que le sucre, là c'est vraiment très pâtissier ce que je te dis, le sucre est très fragile selon l'humidité, en plus c'était en mois de janvier, il faisait très froid, très sec. Et que lorsque tu chauffes ça au chalumeau et lorsque tu scindes les deux pièces, tu as une chance sur cinq qu'elles se fissurent et qu'elles tombent. Il y a beaucoup de casses en fait dans ce genre de concours. T'as des mecs qui font des pièces incroyables.
Et tout se
pète. Et le stress, le truc, le machin, fait que la pièce tombe. Voilà, c'est très souvent ça ce qui se passe. Et j'ai quelques photos de cette époque-là où c'est Philippe qui passe au chalumeau sur le sucre, en fait, pour que ça fonde et que ça fasse la scission parfaite. Et moi, si tu veux, je porte ma deuxième partie de pièce à bout de bras et je la pose. Et je me rappelle que quand je l'ai posée, donc t'as quand même plus de 2000 personnes hein, qui
en
regardent,
plus, qui te regardent,
un boucan d'enfer, etc. Il y a eu 3 secondes de silence.
Ah ouais.
Je l'ai posé comme ça. Et j'ai des photos, je vois mon regard.
C'est énorme.
J'étais encore plus fou que. Et le regard, je vois même le regard de Philippe hein, qui est derrière moi. Je pose la pièce, j'attends quelques secondes et je vois que le sucre qui a
prend,
cuit prend comme une sorte de glu, se refroidit. Et là, je lâche la pièce et ça y est, c'est fait quoi. La pièce fait 2 mètres de haut. Après, on a collé la chocolat. C'était beaucoup plus simple, la chocolat. J'avais, à l'époque, on est en 2005, j'avais acheté un système de tuyaux pour mettre de la neige, pas de la neige carbonique, pardon, tu sais, de la soufflerie, comme dans les boîtes de nuit quand on te souffle du brouillard là.
Ah oui, du brouillard, de la fumée quoi.
De la fumée, ouais. Donc j'avais mis un truc, j'avais fait tout un truc. Moi je suis pas du tout bricoleur. Quand ma femme va écouter ça, elle va se marrer parce que je n'ai pas planté un clou.
Ouais, enfin bon,
j'avais acheté les bécanes entre guillemets et si tu veux, j'avais aussi déterminé mon thème. Mon thème était sur. J'ai toujours été un passionné de la mythologie grecque. Et il faut que tout ait un lien. Et pour synthétiser et pour réunir ces 3 pièces, entre guillemets, eh bien, j'avais pris les nymphes. Et dans les nymphes, il y a 3 catégories de nymphes. Il y a la naïade, qu'on peut appeler la sirène, donc qui était en glace sculptée. Il y avait l'oréade, qui était une femme avec des ailes. Et il y avait la dryade, qui était une femme arbre. Donc moi, j'ai travaillé sur une femme arbre en sucre. Mon pote Philippe, l'oréade avec une femme ailée, avec plein de chocolat et
d'accord.
Tout, c'était superbe. Et voilà, il y avait un lien, il y avait cette fumée, il y avait, on avait beaucoup, on a bossé. Moi, j'ai perdu ma petite amie de l'époque, hein, elle m'avait quitté, j'avais bossé comme un dingue, j'avais plus de vie sociale, c'était terrible. Et donc, quand on finit, bon, j'ai plein encore d'anecdotes, mais grosso modo, on finit. Bon, pour moi, c'est fait, quoi. Je sais qu'il y avait, donc nous, on est passé le lundi, je crois. Le dimanche, il y a eu comme des gros morceaux, tout était bien passé et tout. Je pensais que vraiment, hormis l'éducation, je savais que ça passait. Donc, c'était les doigts dans le nez. Bon, après, tu nettoies ton truc. Pareil, on a fini une heure avant tout le monde. Enfin, toi, on était là, quoi. Mm. Pour moi, c'était évident. Et puis, alors, la phase la plus délicate, c'est lorsque tu attends les résultats.
Bah, c'est
moi, qui suis impatient, c'est insupportable. Et t'attends. Puis moi, c'est comme si j'avais sauvé la vie de quelqu'un. Toi, je pouvais pas ne pas gagner quoi que ce soit. Et en fait, on a eu le premier prix dégustation. Le prix dégustation, la dégustation est notée sur un barème de 3, donc c'est le plus gros barème. Quand tu gagnes la dégustation, en général,
tu
as des bonnes chances
parti.
De gagner. Quoi.
Ouais.
Donc on voit les notes s'afficher. Premier en entremets chocolat, deuxième en glace, je crois, premier en dessert assiette. Donc premier en général en dégustation. Voilà, on gagne une sorte de. Bon, un peu plus un bibelot, là, le vase de sève du président de la République.
Ouais, mais du coup, vous êtes en confiance quand même.
Mais on est en confiance, ouais, on est en confiance. Et puis après, ils disent, voilà, numéro 3, numéro 2 et numéro 1, la France. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, tu penses à quoi ? C'est tellement dingue. Moi, je pense à ma maman qui m'a élevé tout seul. Je pense à tout ce travail. Je pense au petit garçon qui est parti de rien et qui avait un but et qui l'a atteint. Donc, y a énormément d'émotions. Moi qui pleure jamais, j'ai pleuré très rapidement toutes les larmes de mon corps, surtout quand ma maman est venue me voir. Et toi, bon voilà, j'avais le trophée dans mes bras.
Ouais,
toi,
hein.
Mais tout de suite après, quelques minutes après, dans ma tête, je me disais, c'est quoi maintenant la prochaine étape ?
La prochaine étape, ouais. Bah, après ça, qu'est-ce que tu fais, quoi ? C'est dingue.
Bah, après, si tu veux, j'ai beaucoup développé parce que j'avais la chance d'être dans un palace parisien. On me faisait confiance, on m'a donné des moyens. J'ai réussi en 2005 donc à devenir champion du monde dans ce bel hôtel. Après, j'ai ouvert ma société un an plus tard, ma société de conseil. Je rêvais de faire des livres parce qu'il faut savoir qu'en 2005-2006, il n'y a quasiment pas de livres de pâtissier.
Ouais, c'est très différent à l'époque.
Donc j'arrive à sortir un livre chez Plon à l'époque. Je commence à faire un peu le tour du monde pour donner des cours dans des écoles. Ça, j'adorais faire ça, c'était un bonheur.
Ouais, donc, tu as trouvé quand même énormément d'autres, d'autres activités. En fait, tu as complètement diversifié tes activités.
C'était nécessaire. Mmh. C'était nécessaire.
Bah, c'est sûr que tu pouvais pas.
Et dans la suite, en fait, ce qu'on ne dit jamais vraiment assez, c'est qu'en 2007, 2 ans plus tard, j'ai coaché une équipe suisse qui était un peu jeune, mais qui a fini 4e ou 5e. Il y avait un jeune gamin qui était génial, qui s'appelait Christophe Renaud, qui est devenu meilleur de France par la suite, voilà, qui est devenu un ami.
qui est un type fabuleux, qui est à Carouge et à Genève. Mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'en 2009, j'ai coaché une autre équipe, donc, dont un de mes bras droits, qui était mon commis à la base, hein, au Plaza Athénée, qui s'appelle Jérôme d'Olivera, qui est un garçon qui est un peu mon fils spirituel, qui est un garçon exceptionnel. Et donc, 4 ans plus tard, cette équipe de France a gagné de nouveau. Et quelque part, c'est presque plus beau de gagner, de faire gagner les autres que de gagner toi-même. Voilà. Puis après, bon, après, je rêvais de faire de la télé parce que mon métier n'était pas vraiment mis en valeur. Donc, j'ai réussi à rentrer dans la production, à créer des histoires, à coproduire, Et puis, à un moment donné, il était temps que je fasse quelque chose ma vie parce que j'étais au summum, entre guillemets, de ce que je pouvais faire. La seule chose qui me restait, c'était de s'installer, d'être
ton propre
entrepreneur. Ça me faisait très peur. Ça me faisait très peur. Et puis, finalement, j'ai passé le cap et puis boum, quoi.
Alors, avant de parler de ça, j'ai 1000 questions. Déjà, je suis hyper contente de t'avoir posé cette première question. Je me doutais qu'il y avait une histoire derrière ces championnats du monde, mais je t'avoue que je ne pensais pas.
C'était aussi long.
Alors, long, ouais, mais surtout que c'était... Enfin, je me doutais qu'il y avait du travail, mais ce que je trouve assez fascinant dans ce que tu m'as dit, c'est que c'est... Enfin, en fait, c'était millimétré, mais surtout, tu t'es organisé, et je pense que c'est important de le dire. T'as refait le local, quoi, si je comprends bien. T'as refait mes 10 000 fois les recettes. Enfin, je veux dire, il n'y avait aucune chance possible, en fait, que tu ne gagnes pas. Tu t'es vraiment complètement donné les moyens. Et je pense que c'est important de dire que, tu vois, on dit souvent la chance sourit aux audacieux. Ben, elle sourit aussi, dans ton cas, aux travailleurs, parce que tu t'es quand même donné les moyens de le faire. Et c'est vraiment comme un entraînement d'un sportif, quoi. C'est juste que non seulement t'as visualisé, mais tu t'es organisé. Et je suis assez fascinée par le leadership que tu as eu en la matière, parce que t'as vraiment, mais enfin, j'ai l'impression que c'était un plan comme un plan militaire, tu vois, de comment réussir à gagner. Je trouve ça hyper impressionnant.
C'est adorable. Écoute, moi maintenant, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps tout ça. Maintenant, je vis avec mon temps. J'aime pas vivre dans le passé, mais souvent, les gamins qui bossent avec moi me disent: ah, chef, comment vous faisiez, enfin. Pouvez nous expliquer. Et c'est vrai que voilà, je suis un mec à l'histoire, j'ai fait un milliard de choses dans ma vie, donc j'aime bien raconter des histoires. Et c'est vrai que, tu vois, je ne l'ai pas trop montré, mais ça m'émeut un peu, tu vois, de reparler, bon, surtout avec ma maman. Voilà, tu as des moments où ouais, c'est un rêve de gosse, donc c'est génial. Mais il ne faut pas s'arrêter là, c'est ça qui est important.
Ouais.
Ça, c'est un rêve de gosse, c'est une consécration, mais ce n'est surtout pas la fin.
Bien sûr.
Ce n'est que le début.
Si on peut parler un petit peu de ton enfance, justement, ça m'intéressait, et tu as l'air assez ému en parlant de ta maman. Est-ce que tu peux me dire d'où tu viens? Enfin, tu l'as dit un peu à demi-mot, mais je sais que tu as eu une enfance pas facile. Est-ce que tu peux m'expliquer, voilà, comment était ta jeunesse? Et puis aussi, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus petit? Est-ce que déjà tu avais ce rêve de pâtissier ou pas du tout?
Non, pas du tout. Alors, tu sais, j'ai mon fils qui a 5 ans, donc je me transpose un petit peu en lui. Je pense que je voulais faire comme lui, d'ailleurs. Je voulais faire un pompier, policier.
À 5 ans en même temps.
Cosmonaute. Alors, papa est pâtissier, donc il veut faire éventuellement un peu de gâteau.
Ouais.
Et voilà, t'étais dans et super héros. Voilà. Et moi, j'étais exactement comme ça. Je lisais des BD Marvel. À l'époque, personne lisait des BD Marvel.
C'est quoi tes préférés?
J'ai toujours aimé Spider-Man et Captain America. Captain America, il a pas un pouvoir de dingue.
Oui, non, je peux dire.
À part son bouclier, sa super force, son endurance. Mais je sais pas, il transpire une honnêteté, une.
C'est vrai.
Des valeurs, voilà, que j'ai toujours adoré. Donc en fait, je voulais faire ça. Après, j'ai une enfance un peu chaotique parce que j'ai rencontré mon père biologique à l'âge de 7 ans, et il nous a trimballé, donc on a beaucoup voyagé. J'ai su plus tard que c'était une sorte d'escroc qui plantait des trucs et qui remontait des choses à droite à gauche.
D'accord.
Et en fait, de 7 ans à 14 ans, voilà, c'était très chaotique parce qu'on déménageait une à deux fois par an, donc scolarité très 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 difficile, un manque de confiance en soi certainement aussi, tu sais, une forme de résilience, hein, qui s'est naturellement je pense qu'à un moment donné, j'étais fils unique, ouais. J'ai un demi-frère, ouais, qui a 5 ans de plus que moi, que j'adore d'ailleurs. Et à ce moment de ta vie, où tu peux pleurer tous les jours en disant: ah, c'était dur, j'ai pas eu d'affection, j'ai pris des coups, où tu dis: ok, stop, mec, ma vie, je vais la créer, quoi. Moi, j'ai pas envie de pleurer, j'ai pas de temps à perdre à ressasser ce que j'ai fait ou ce que j'ai vécu lorsque j'étais enfant. Je vais prendre ma propre ardoise, ma propre craie.
Et ça, tu te l'es formulé quand tu étais plus jeune, justement, assez tôt. Tu as commencé à te dire.
Inconsciemment, je pense que je l'ai fait. Et puis inconsciemment, je pense que j'ai. Alors, ça, c'est une retour. J'ai beaucoup synthétisé tout ça. Hein. Je pense que je voulais déjà battre mon père à main nue, entre guillemets. Tu es le père, comme on peut dire chez certains psychologues. Et je me suis préparé à ça. C'est-à-dire que j'étais quand j'ai rencontré mon père, en fait, j'étais mal dans ma peau, etc.
je mangeais beaucoup, tu sais, c'était un réconfort. Donc j'ai toujours été gourmand et je pense que ça m'a, à cette époque-là, ça ne m'a pas beaucoup aidé parce que j'étais bien rond. Puis après, j'ai pris la décision de me construire un corps de guerrier, entre guillemets, un mental de guerrier, pour un jour le défier.
Ouais.
Et de là, alors déjà, quand tu es gamin et tu changes d'école sans arrêt, les gamins, quand ton âge, ils ne sont pas simples avec toi.
Ouais, quand en plus, tu es un peu fort voilà, en général.
J'étais un peu fort, j'étais le nouveau, je ne savais pas trop. Donc, ma mère m'a toujours dit, si on... quelqu'un qui te donne une claque sur la joue gauche, tu tournes la joue droite, tu verras, ça sera un imbécile, il sera... pris au dépourvu et il fera rien. Alors, j'adore ma mère, mais j'ai surtout pas écouté.
Il a dit non, moi j'ai plutôt envie de lui mettre
un. C'est que moi, il me mettait une droite, le coup droit, il partait, mais direct. Hein. Et voilà, et je me suis construit comme ça. Je me rappelle, j'ai même eu une époque vers 13-14 ans où j'étais fan de Bruce Lee. J'avais acheté des nunchaku en mousse et j'étais abonné à plein de revues Kung Fu, Karaté, tatata. Voilà, je bouquinais ça, après je me suis inscrit, j'ai pas fait beaucoup de compétitions parce que j'avais des lunettes et j'avais un problème de vue, mais j'ai touché à plein de choses,
boxe,
jiu-jitsu, alors moi plutôt du kickboxing, un pied-point, un coup de genou, voilà, j'ai tourné, j'ai fait pas mal de choses, j'ai fait un peu d'aïkido, et en fait ça me plaisait parce que je devenais un peu un bonhomme quoi,
ouais, bien sûr.
Je savais que si on m'embêtait je pouvais riposter, puis je voulais aussi, c'est un univers un peu de super-héros, défendre ma petite maman.
Bien sûr.
Et, et devenir un peu à ses yeux.
Ouais, parce que tu étais le chef de famille, en fait. Quoi.
Un petit peu, ouais.
Et à quel moment est-ce que tu décides de commencer à t'intéresser à la pâtisserie? Si je comprends bien, parce que j'ai du coup un peu travaillé sur toi, c'était pas évident. Et en fait, je trouve ça intéressant que t'aies pas eu de vocation dès l'âge de 4 ans située pour la pâtisserie, parce que souvent les gens sont complexés et se disent ce genre de métier, bah t'es obligé, tu vois, de naître, si tu veux, avec une passion pour la pâtisserie. Donc je comprends que t'avais quand même un intérêt, etc. Mais c'était pas non plus évident pour toi tout de suite que t'allais devenir pâtissier.
Et non, pas du tout. Alors si tu veux, j'ai toujours aimé dessiner. Je dessinais des BD D'accord. Marvel, des personnages, etc. J'adorais ça. Et je voulais être dessinateur, exactement. Bon, je m'y suis pris un peu tard, j'ai su que j'étais même trop jeune pour intégrer les Beaux-Arts, mais tout cet univers m'aurait beaucoup plu.
Super créatif.
Ouais, très créatif, je suis pas tout seul dans ma tête, comme disent certains de mes amis. Donc voilà, toi, je voulais rentrer je voulais utiliser tout ce que j'avais dans ma tête dans l'artistique, mais c'était pas vraiment un métier. Donc, et comme ma maman est la troisième de 10 enfants, issue d'un milieu, d'origine italienne, très modeste. J'ai toujours vu mes oncles et mes tantes avoir des gens très simples, toi, mais qui, via ma maman et dans leur éducation, ont toujours prouvé qu'il n'y a que le travail qui paye dans la vie. Être bienveillant, être poli, voilà. Et je pense que je leur dois énormément parce que tout ça, ma grand-mère aussi l'était, tout ça, ça a été les bases de ma vie, entre guillemets. Et j'ai décidé de faire une année, parce que j'étais trop jeune, une année de pré-apprentissage. Alors, c'était même pas pré-apprentissage, c'était une année, je crois que c'était en quatrième et des brouettes, où je faisais des stages dans plusieurs entreprises pour savoir vraiment quel était mon domaine de prédilection. Donc, j'ai fait des trucs terribles. J'ai fait électronique.
Oula.
J'ai fait électricité. J'ai vu un mec pendant une journée monter un tableau électrique. Je pense que j'aurais pu me pendre. J'ai fait peintre en bâtiment en plein hiver, les mains gelées et tout. Et, par contre, j'ai toujours beaucoup de respect pour ces gars-là parce que il faut du courage, quoi. Il faut pas se plaindre. J'ai fait ébéniste, ça me plaisait bien, ébéniste.
Donc t'as testé plein de choses en fait.
Ouais, j'étais parce que je savais pas trop ébéniste. J'aurais peut-être pu prendre parce que ouais. Toi, c'est travailler le bois, le modeler, ça aurait pu me plaire. J'ai fait boulanger, c'était très bien, mais me lever à 2h du mat quand t'as 14 ou 15 ans, c'est un peu rude. Et puis, c'était pas un métier pour moi, boulanger, toi. Je me dis non, je vais commencer par la cuisine, et puis peut-être un jour un restaurant, toi. Cuisinier, c'est peut-être un métier, pâtissier, non, c'est pour rigoler, pâtissier. Quoi. C'est pour faire des gâteaux au yaourt le dimanche avec maman, toi, c'était pas sérieux. Donc, j'ai décidé de faire un pré-apprentissage en cuisine. Et je suis tombé sur un tortionnaire qui m'a mis la misère pendant 3 jours. J'ai l'impression que j'avais vécu 3 ans avec lui. Et à rien aller. Quoi que je fasse, le type, il me mettait sur la tronche tout le temps. Et tu sais, la cuisine, c'est dur. Tu te lèves tôt, tu finis tard. T'as pas de coupure. Là, on avait une coupure de 2 heures. Toi, j'étais paumé. J'avais à peine 15 ans, quoi. Et au bout de 3 jours, il dit à ma mère, écoutez, je vais pas le prendre, votre fils. Il est pas motivé. Je le sens pas. Mais là, il m'a sauvé, en fait, le type. Hein. Ouais, il m'a sauvé totalement. Et j'avais dit à un moment, tu sais quoi, la cuisine, c'est pas mon truc. Par contre, c'est la pâtisserie, parce que je me réfugiais beaucoup en pâtisserie là-bas. J'ai dit, c'est la pâtisserie qui me plaît. Et c'est pâtisserie que je veux faire. Et là, dans ma tête, déjà, comme à la sélection Coupe du Monde, je savais que je voulais être pâtissier. Et je savais, je ne sais pas comment, mais je voulais tout faire pour faire partie de l'élite.
Ouais,
de
d'être métier. Un grand pâtissier. J'allais te demander, parce que tu venais d'un milieu assez modeste.
Ouais.
Tu voulais être un grand pâtissier, tu avais de l'ambition et d'où ça t'est venu, tu vois, cette ambition? Parce que je le sens que, comme ça quand tu me parles, en fait, que c'était un peu évident que tu n'allais pas juste être pâtissier, tu vois.
Alors, d'où ça vient, je ne sais pas. Après, je me suis beaucoup nourri du cinéma dans ma vie. Bah, tu sais, je ne vais pas faire le schéma, mais bon, une enfance délicate, etc. Une forme de résilience, tu veux te battre, tu veux devenir quelqu'un de différent, de nouveau, et tu veux faire plaisir à... Tu veux être un modèle pour toute ma famille, notamment pour ma maman. Et ben là, voilà, quand il faut y aller. Alors par contre, attention, je viens de rien. C'est-à-dire que j'ai commencé mon pré-apprentissage dans une petite boulangerie dans un bled en Vendée qui s'appelle La Bruffière. Je crois qu'il y a 2000 habitants. On faisait de la pâtissière avec un mélange d'eau et on faisait des crèmes pâtissières. Donc là, c'était vraiment, je venais de rien. Ouais. Et en apprentissage, ma maman a été mutée à Cholet. Alors là, je passe de 2000 à 60 000 habitants.
Voilà.
Attention. Cholet, waouh, là c'était pour moi la métropolis, quoi, comme Superman. Et j'arrive à Cholet et on trouve un mec qui veut bien de moi, quoi, un mec sympathique mais pas un grand pâtissier. On faisait des tartes au citron avec du pulque au citron, enfin toi ça volait bas, mais bon. Et je me dis, bah, de toute façon, voilà, je vais dans une école à Angers et tout de suite, très très rapidement, lui me toise en me disant, bon, moi j'ai eu qu'un apprenti qui a compté pour moi, c'est lui, donc t'avais le diplôme d'un gamin avec une petite photo d'identité et t'avais ce gamin qui était là tous les jours devant moi et il me disait, ouais, vous êtes tous des branques, le seul que je respecte, c'est lui, il a fait le concours du meilleur apprenti départemental, blablabla. Et là, à peine il a fini sa phrase, mon pépère, que j'avais qu'une envie, c'était de finir premier de ce
c'est
concours.
C'est de gagner la compète, quoi.
Et d'être l'apprenti qu'il marquera lui. Voilà. Et en fait, j'ai fonctionné comme ça quasiment toute
cas,
ma
je
vie.
Pense.
Je sais pas, paix à son âme, il n'est plus là malheureusement, mais je pense qu'il était, il l'a jamais vraiment avoué, mais je pense qu'il était un peu fier. Il pensait que c'était un peu de lui, ça venait un peu de lui que j'ai grandi très vite les échelons, mais bon, c'était plutôt moi qui me suis battu et qui ai travaillé. D'ailleurs, je raconte souvent, c'est les mamans de mes copains qui disaient, mais bosse, hein, va en seconde, sinon tu vas finir comme ton pote à faire des gâteaux tous les dimanches. Bon, maintenant, je ne sais pas ce qui se passe, tout le monde veut arrêter son métier et devenir pâtissier.
Ouais.
Donc, pour eux que ça dure, on a beaucoup travaillé,
beaucoup.
On a œuvré pour ça, hein, pour que la pâtisserie soit sexy. Il ne faut pas l'oublier.
Alors, justement, tu enchaînes énormément. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de tous les jobs, si je puis dire, que tu as eu dans les palaces, mais quand même, passer de pré-apprenti, même pas à Cholet, je ne me rappelle pas du village, excuse-moi, jusqu'à ensuite le Plaza Athénée, c'est quand même assez dingue. Je voulais quand même parler au-delà de ça de ce que tu avais appris dans ces grands palaces et notamment quand tu deviens chef au Plaza Athénée, que tu commences à manager des équipes, que bah, en fait, tu es en charge quand même d'un staff, que tu construis, tu l'as dit toi-même, ton équipe. Est-ce que tu peux m'expliquer en gros quelles ont été pour toi peut-être les grandes difficultés ou les grands enseignements, enfin, toutes ces années où tu étais dans ces palaces, on a l'image d'Épinal en plus, tu sais, dans des cuisines comme ça où ça grouille de monde, c'est hyper compliqué, c'est un peu militaire. Est-ce que tu peux me dire, voilà, si tu essayes de prendre énormément de recul, quels sont les grands enseignements ou les grandes, peut-être, les grandes difficultés que tu as vécues à l'époque?
Ça va être difficile de boucler tout ça en une heure, parce que j'ai plein de... En fait, chaque endroit où je suis allé, où j'ai vécu, parce que j'ai beaucoup voyagé, m'a apporté quelque chose. Déjà, en tant qu'homme, il fallait que je me rappelle, quand je suis arrivé à Londres, j'étais jeune apprenti, je suis arrivé à Londres, j'avais quoi, 200 livres par mois. Donc j'avais rien de rien, il a fallu que je me batte, et au bout d'un mois les mecs m'ont dit, attends, mais c'est une bombe le gamin là, il bosse comme 4 personnes, etc., on va l'augmenter. Et je suis passé à 600 livres, ce qui fait à l'époque c'était 6000 francs, hein, faudrait recalculer tout ça. Mais voilà, j'avais faim, je peux pas l'expliquer. J'écoutais un truc sur Noah la dernière fois, c'était génial, il disait que c'était un enragé. Ben, je pense que voilà, j'étais comme ça, et en fait j'ai pas changé, je suis toujours comme ça. J'ai toujours envie de me battre sur tout et n'importe. Pour moi, rien n'est acquis. Il faut se battre. Donc, j'ai avancé tout au long de ma carrière, comme ça, dans plusieurs pays, plusieurs magnifiques maisons. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on ne nous apprend pas à devenir manager. On ne nous apprend pas à gérer l'humain. Ça ne s'apprend pas, en fait. Hein. Ça s'apprend sur le tas. Et souvent, en cuisine, tu as le mauvais exemple, c'est-à-dire que tu as le chef qui est Dieu le Père, qui râle. qui peut maltraiter certaines personnes, etc. Et puis, c'est le plus faible qui ramasse. Moi, j'ai eu une expérience qui a été... J'ai eu plusieurs expériences, mais j'en ai eu deux avant d'arriver au Place d'Athénée qui ont été déterminantes dans ma carrière. La première, c'est que je suis parti à Kobe pour ouvrir une pâtisserie et une école avec un chef pâtissier que j'adorais, qui était mon père spirituel, qui s'appelait Grégory Collet, le chef pâtissier du Negresco à l'époque. On a ouvert tout ça et on avait une quinzaine de pâtissiers japonais. Et j'ai mis une rigueur que j'appelle une rigueur robuchonienne, c'est-à-dire tout devait être parfait, millimétré. J'avais l'impression que je sauvais une vie à chaque fois que je montais une religieuse, quoi. Et quand je travaillais sur un mètre de table le plus rapidement possible, le plus efficacement possible. J'essayais toujours d'être le plus parfait pour que mon chef soit vraiment... se dise « Waouh, j'ai misé sur le bon cheval, ce gamin, il est incroyable. » Donc je voulais pas qu'il soit déçu. Donc j'ai mis une pression énorme sur les gens qui étaient autour de moi. Et puis un jour, je me suis aperçu que j'avais mis tellement de pression que petit à petit, ils sont tous partis.
Ouais, c'est ça.
Et je me suis retrouvé quasiment tout seul.
Toi, c'est à la rigueur, c'est ton énergie, donc tu peux le survivre, tu peux le vivre à ça.
Complètement. Et là, j'ai eu un tilt. Toi, je me suis dit que seul, on pouvait pas aller bien loin. Donc j'ai commencé déjà dans mon management à prendre soin des autres qui étaient autour de moi. Après Kobe, je suis parti à New York pour Pierre Armé. On faisait du conseil dans une grosse boîte. Et voilà aussi, c'était terrible. En fait, le type chez qui on était un escroc total. En fait, il m'a payé les premiers mois. Après, il ne me payait plus. J'étais très loin de la France. Le mec faisait ce qu'il voulait. Enfin, tout le travail que je faisais n'était pas remis en question. Enfin, j'ai vécu l'horreur là-bas, l'horreur. Et à un moment donné, il me payait plus. Et à Paris, quand j'appelais Paris, j'appelais Pierre, il y a un problème là, il me paye plus.
Parce que la vie à New York est quand même pas donnée. Donc...
Oui, en plus, alors le loyer était pris en charge. J'habitais Brooklyn à l'époque. Et puis j'avais la rage parce que j'étais jeune, j'avais 24 ans. Putain, mais j'en avais sous le pied. J'avais déjà un petit style et tout ça. J'étais à fond dans les pièces artistiques, etc. Et en fait, on ne parlait à New York que de certains chefs pâtissiers new-yorkais qui n'avaient pas forcément de talent. Et moi, ça me bouffait, quoi. Ça me bouffait. Je me dis, pourquoi on parle d'eux et on ne parle pas de Pierre, on ne parle même pas de moi. Ça, c'est pas normal. Donc, j'étais triste à mourir là-dessus. Et puis, finalement, j'ai quand même réussi à tirer quasiment une année à New York. Et puis, un beau jour, le type m'a dit, voilà, c'est fini. J'ai appelé l'immigration. Tu as 24 heures pour quitter le pays.
Mais donc, le mec était un escroc total, quoi.
Ah ouais, un escroc. Mais même là, après le 11 septembre, il a fait une magouille pas possible. Il était recherché par le FBI. Enfin, c'est une histoire de dingue. Et un jour, j'écrirai mes mémoires. donc, si tu veux, je reviens à Paris. Pour moi, il y a deux échecs. Il y a l'échec du Japon, parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que quand je suis parti du Japon, je suis parti parce que Pierre Armé m'avait proposé une place incroyable. Et mon chef de l'époque était super déçu que je parte tout de suite. Et je pense qu'il n'a pas... Bon, j'étais jeune, j'ai fait des erreurs. Peut-être que lui aussi n'a pas su parler comme il fallait.
En même temps, quand tu es chef pâtissier et que Pierre Armé te propose un truc de dingue, tu dis oui, quoi.
Oui, c'était ultra excitant.
C'est un peu dieu quand même à l'époque. Aussi,
c'est devenu un de mes meilleurs amis, mais c'était un mec... c'est Pierre Armé, quoi. Toi, c'est le fédéraire de la profession. Donc, je quitte le Japon, je quitte New York. Deux défaites pour moi. Je rentre chez La Durée, j'y reste finalement 8 ou 10 mois. Et puis, si tu veux, à un moment donné, on me propose la place du Plaza, et je ne peux pas refuser, c'est la place de ma vie. J'ai toujours rêvé d'être chef pâtissier dans un palace. Donc, je quitte La Durée, et mon très bon pote à l'époque qui était chef chez La Durée me fait la gueule, me dit je ne comprends pas et tout. Et donc, ça me rend très triste, presque dégoûté, quoi. Je me dis mince, mais ça fait 3 fois en fait, ça fait 3 départs qui se passent mal. Et là, dans ma tête, je me dis, il n'y aura pas de quatrième. Quoi qu'il se passe, il n'y aura pas de quatrième. Et quand je suis rentré au Plaza Athénée, j'ai bien morflé pendant un an, hein, parce que ce n'est pas si rose que ça. Il faut savoir que dans les grands hôtels, dans la grande histoire, en fait, Alain Ducasse reprenait la totalité de la restauration du Plaza, mais que l'ancien chef était encore présent avec toutes ses équipes. Donc concrètement, on t'explique que tu vas débarquer dans un hôtel, tu te débrouilles pour virer tout le monde et tu te débrouilles pour embaucher d'autres personnes. Et que concrètement, si
sympa.
Tu veux cette place,
ambiance quoi.
Ça, on te le dit quand t'es embauché, hein, et quand t'es parachuté là-bas.
L'envers du décor.
Et j'ai vécu vraiment, j'ai vécu une année et demie de merde.
Mais surtout, on est d'accord que t'avais pas de formation ou même sans formation parce qu'il y a pas vraiment de formation pour ça. Il y a pas de formation pour virer les gens en fait, mais c'est juste horrible.
Ah non, c'est terrible, ouais, c'est terrible. Alors que c'est un hôtel qui a été le premier à mettre les 35 heures en place, qui est.
Ouais.
Tu vois, il y a une charte du management parfaite, etc. Sauf que bon, backstage, ça se passe pas comme ça. Donc, si tu veux, ça a été assez horrible pendant, pendant presque un an. Tu avais un type qui était un nettoyeur et qui était un peu le chef exécutif et qui mettait la pression à tout le monde pour que tout le monde craque. Donc, en fait, je garde une très mauvaise, des très mauvais souvenirs de cette époque. Par contre, j'ai pas lâché, quoi. J'ai pas lâché parce que je me suis dit, attends, trois échecs, pas de quatrième, je me suis promis. Donc, je vais rester jusqu'au bout. Les mecs, ils essaient de me faire craquer, ils essaient de, par tous les moyens, c'est moi qui vais gagner, quoi. Et finalement, au bout d'un an, ce type en question a été viré. Et tout doucement, le directeur de l'hôtel me croise dans le couloir et dit, tiens, c'est qui ce gamin, il a l'air un peu réveillé.
C'est pas si mal, ces pâtisseries.
Ouais, tu vois, il se passe un truc. Puis j'avais tout de suite compris qu'il fallait que je fasse blocus. Et je fasse corps avec mon équipe, que ces gamins croient en moi autant que je crois en eux, pour que personne, lorsque j'étais en congé, c'est malheureux ce que je raconte, mais c'est très vrai, ne vienne en mon absence pour, toi, dire « Ah tiens, le chef, il a dit ça sur vous. Hein. » C'est très bête, mais c'est très vrai ce qui se passe. Hein.
C'est
de la souffrance psychologique. Et en fait, j'ai réussi à créer cette équipe. Et après, on est devenu un état dans l'état. Intouchable. Plus personne pouvait... rentrer où tout devait passer par moi. Et puis on a construit des bases sereines. Et puis surtout à cette époque, il y avait un directeur qui est toujours là-bas, qui s'appelle François Deloye, qui est vraiment un type génial, qui m'a beaucoup aidé à ce niveau-là dans le management et le leadership. En fait, on avait des séances de travail, des week-ends à droite à gauche, où justement on faisait j'ai appris qu'est-ce qu'était le benchmarking, le marketing, toi, j'apprenais beaucoup. Et,
sur le tas, mais.
L'union fait la force, etc. Et ça m'a beaucoup porté. J'ai acheté un paquet de bouquins sur le management à l'américaine, dont le Manager Minute, des choses comme ça. Voilà, que je les ai bouffés. Et je sais pas, il y a eu un truc qui s'est mis en place dans ma tête où j'ai su que manager l'homme, c'est pas inné, c'était nécessaire.
J'aimerais quand même parler de, évidemment, ton aventure actuelle. J'aimerais comprendre déjà, premièrement, comment tu te dis « je quitte donc le Plaza Athénée pour fonder ma boîte », parce que tu aurais très bien pu repartir dans un autre palace ou ce genre de choses. Alors peut-être que tu l'avais déjà fait, mais c'est quand même un pas complètement différent de devenir chef pâtissier entrepreneur. Et aujourd'hui, tu as, je crois, plus de 40 employés. Là, on est dans tes ateliers. Enfin, c'est une affaire, c'est une entreprise. C'est pas juste toi qui es artisan pâtissier. Maintenant, c'est vraiment autre chose. Est-ce que tu peux m'expliquer, voilà, qu'est-ce qui se passe dans ta tête et pourquoi tu as envie de faire ça?
Écoute, c'est encore une fois une très bonne question. Je pense que je ne pouvais pas aller plus haut. On est en 2012. J'ai fait trois émissions télé et j'ai une émission. J'ai mon émission quotidienne sur France 2. Je suis chez Pâtissier au Plaza, mais je suis sorti, donc c'est-à-dire que je suis consultant. Je suis chef au Plaza en n'étant que deux jours de présence par semaine. Le reste du temps, en fait, je voyage beaucoup, je donne beaucoup de cours à l'étranger, je gagne très bien ma vie. Je peux pas être plus haut.
T'as pas de challenge, de bouquins. C'est ça qui te...
C'est pas que j'ai pas de challenge, c'est que pour moi, à ce moment-là, je ne peux pas évoluer plus. La seule façon d'évoluer, parce qu'en plus au Plaza, j'avais plein d'idées, mais tu sais, t'es pas vraiment chez toi, donc on te refuse une fois sur trois tes projets, et je voyais que ça avançait pas, donc ça m'épuisait. Et je me suis dit, je pense qu'il faut que je sois chez moi. Par contre, complication. Comment être chez toi seul en sortant d'un luxe qui est le Plaza Athénée avec 35 pâtissiers à tes côtés, c'est impossible. Et je pense que ce qui a dérivé, ce qui a été vraiment primordial, ça a été que mon épouse était avec moi, Delphine, qui est comédienne à la base et qui on a cassé notre tirelire tous les deux et on a misé dans un petit local qui est à côté. Là.
Ouais.
On a fait une petite, ce qu'on appelle une petite école de pâtisserie. Et je m'étais dit, chaque personne qui va prendre un cours avec moi aura un petit truc à grignoter, un gâteau qu'il pourra ramener chez lui, en passant par une micro-boutique, une sorte de pâtisserie takeaway.
Ah ouais, je me rappelle, j'y étais passé déjà à l'époque.
Ah ouais, c'est rigolo. Ah ouais. Et donc, j'avais développé une sorte de gâteau hybride entre la tarte et l'entremets, un gâteau qui était frais, qui ne passait pas par congélation et qui changeait tous les jours. Pendant 2 ans, j'ai fait un gâteau qui changeait tous les jours. Voilà, je suis un peu foufou, mais j'adorais. Je réfléchissais la veille à ce que j'allais faire. Avec les produits du marché, voilà. Et je pense qu'on a fait quelque chose de totalement dingue et innovant. Bon, le fait qu'il ait la télé, qu'il ait tout ça, l'école
a très
bien marché, c'était bien, on était très contents. Et puis à un moment donné, je me dis, bon, avec le peu que j'ai gagné à droite à gauche et à la télé, ce qui est pas énorme, hein, il faut que je réinvestisse très vite. Et il faut vraiment jouer ma pâtisserie. Mais en fait, c'est très compliqué. Il faut savoir qu'ouvrir une pâtisserie seule, hein, et sans associé, eh bien, à Paris, quand tu es un peu connu et tu ouvres un truc, si tu n'as pas 1 million d'euros de financement, tu ne fais pas grand-chose. Parce qu'il y a le fonds de commerce, il y a les travaux, il faut payer ton personnel,
le matériel,
les matières premières. C'est titanesque. Donc, toi, j'avais tous mes potes qui sont installés depuis plus de 20 ans, tu vois, et maintenant, ils ont des affaires incroyables. Et c'est des têtes d'affiche de la pâtisserie, c'est des mecs super. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, quoi. Alors que quand tu es connu, bam, il faut que si tu ne le fais pas tout de suite,
il y a une pression en plus, quoi.
Pour un ringard, ouais. Donc, tu as une certaine pression. Et en fait, on a fait ça intelligemment. Je pense qu'on a construit donc, la masterclass à l'époque. En 2015, on ouvre notre première pâtisserie. Pour te dire, on a un tout petit laboratoire. Elle est au 16 rue de la Verrerie, dans le Marais, on a un petit laboratoire. C'est moi qui étais jour et nuit là-bas pendant plus de 2 mois avec 5 pâtissiers. Et on a produit. Et ça a été un succès dingue. On a eu, ça, c'est les belles années. Toi, tu as 15-20 mètres de queue tous les week-ends. C'est fabuleux. Tu te dis, alors c'est là où c'est dangereux. Tu te dis, c'est génial, ça va être comme ça tous les jours.
Ouais,
non,
c'est
pas comme ça tous les jours, c'est comme ça à Noël et c'est comme ça à l'ouverture pendant quelques mois. Et puis après, un an plus tard, j'ai réinvesti, j'ai acheté une deuxième pâtisserie, une troisième, une quatrième, plus un laboratoire de production. Et en fait, maintenant, donc j'ai ouvert en 2013, mais ma vraie pâtisserie a commencé en 2015. On va dire que pour moi, j'ai 50 pâtisseries. Maintenant, je pense et je trouve que ma pâtisserie me ressemble vraiment. C'est-à-dire qu'il faut savoir que sortant du plat d'Athénée, j'ai fait une pâtisserie très haute couture et je voulais arrêter ça. Je voulais faire une pâtisserie de la rue, une pâtisserie plus ludique, avec moins de colorants, moins de gélatine, moins de tout ça.
Plus naturel, oui. Moins sucré aussi, j'ai vu.
Ouais, je l'ai faite pendant 2 ans, mais j'avais un côté un peu, tu sais, un peu super-héros, rock'n'roll. Et de temps en temps, j'entendais « Ah, c'est sympa ce que vous faites, c'est rigolo, c'est ludique. » Et dans ma tête, c'était tout sauf ludique, rigolo et marrant, quoi. Donc je me suis dit, mais en fait, j'ai pris une tournure qui a bien marché pendant quelques années, mais maintenant, je veux que ma marque devienne une institution, et je veux en prendre les codes, et je veux en prendre les moyens et la direction. Et j'ai décidé de changer la charte graphique, j'ai décidé de changer tous les sacs.
Ça, tu l'as fait au bout de combien de temps, au bout de 2-3 ans?
Alors, j'ai dû le faire en 2018, tu vois, dans ces eaux-là, ça fait à peu près 2 ans maintenant là, qu'on est. Et puis maintenant qu'on a un vrai laboratoire, tu vois, je peux construire mes gâteaux différemment. Et je trouve que là, maintenant, à l'aube de 2020, c'est vraiment moi. Ma pâtisserie me ressemble vraiment. Mes produits me ressemblent. On est juste dans les prix. Après, il y a toujours des gens qui diront que c'est trop cher. Mais
oui,
non,
c'est
jamais assez cher. Rassurez-vous. Quand tu payes un mojito à 15 balles, t'as 80% de glaçons. Et t'as 50 centimes de. Enfin,
quand
centimes
tu
de
vois le travail
première.
Et puis les pertes aussi qu'il y a quand même en pâtisserie,
attends,
il faut le dire,
moi,
rien ne se garde. Donc,
je joue au tennis tous les matins. Dès que je loue une bulle en couvert, c'est 20 euros l'heure. 20 euros. Quand tu achètes un gâteau à 20 euros,
ouais,
t'as 8 heures de travail derrière. Donc,
c'est clair.
C'est,
non, mais
c'est
hyper important de
on
le dire.
On peut parler pendant des heures et des heures des prix, etc. Moi, je trouve qu'on pratique les prix, des prix justes, avec le summum des matières premières, avec une équipe 100% parisienne en plein cœur de Paris où on se donne les moyens de faire le top du top. On est perfectible, comme tous. Et pourtant, je travaille jour et nuit sur l'efficacité optimum de mes produits, de ma pâtisserie. Mais voilà, c'est en tout cas mon but actuellement, c'est que ma marque devienne une institution comme peut l'être une maison comme La Durée, une maison comme Pierre Armé, une maison comme Jean-Paul Lévin, la maison du chocolat,
ouais,
tout ça. Voilà, je veux en arriver.
Et justement,
là,
toi, tu as quand même à la base donc un profil de chef. Comment tu t'es organisé? Comment vous êtes répartis les rôles peut-être avec ton épouse au niveau du business? Parce qu'en fait, c'est une chose de savoir faire de merveilleuses créations, à la fois artistiques, délicieuses, etc. Mais manager des gens, financer, c'est quand même autre chose aussi. Est-ce qu'aujourd'hui... Est-ce que tu peux me parler peut-être des challenges que tu as eus et comment vous êtes répartis les rôles, soit avec ton épouse, soit est-ce que tu as réussi à constituer une équipe? C'est souvent hyper dur quand même de passer de l'un à l'autre, je trouve.
Alors en fait, le plus dur, c'est avant l'ouverture. Le plus dur, c'est quoi? C'est prendre rendez-vous avec le RDF qui vient et qui te plante 3 fois pour voir un branchement. C'est toutes les visites des locaux qui te plaisent, qui ne te plaisent pas. C'est le financement où le mec te dit « Vous êtes qui déjà? Vous faites quoi? C'est quoi votre loyer? Vous voulez prendre ça ?» autant d'argent, mais non, c'est pas possible. Voilà, donc ça, c'est ça le plus dur. Et ça, tu y vas tout seul. Tu remontes les manches et tu vas au charbon. Ça, c'est vraiment... Après, une fois que le truc est lancé, tu as tellement mis d'énergie, comme dans la Coupe du Monde, hein, tu es tellement sûr de toi que bam, ça marche. Et puis après, bah, franchement, tu es un très bon expert comptable, tu es un bon avocat, ça passe tout seul. Après, l'idée, c'est de s'entourer de gens de confiance et de talent. Alors, bien évidemment, on a eu des super histoires, on a eu humainement des histoires parfois, c'est très rare. Hein. J'en ai eu beaucoup de salariés, d'employés, il y en a très peu où ça s'est mal passé. Mais parfois, il y a des gens qui n'étaient pas forcément les bonnes personnes au bon poste. Et encore une fois, toi, au bout de 5 ans, maintenant, j'ai une directrice de boutique qui est incroyable. J'ai une confiance absolue en elle. Donc là, c'est vraiment compartimenté là-dessus. J'ai un chef de laboratoire que j'ai depuis 2 ans et qui est génial, en qui je peux faire confiance. Ouais. Et j'ai une équipe derrière qui est incroyable et fabuleuse, avec un chef chocolatier. Enfin, j'ai des gamins fabuleux. Et mon épouse gère tout ce qui est image, tout ce qui est com. Et petit à petit, bah, voilà, maintenant, elle commence même à challenger, à négocier des contrats, etc. D'accord. On a une très bonne DAF aussi.
Oui, hyper important. Ça, c'est primordial.
Et puis voilà, on est entouré. Et c'est vrai que je faisais cette réflexion d'ailleurs pas plus tard qu'au déjeuner avec mon épouse. Je me disais, il faut impérativement que je prenne du temps pour essayer de développer des franchises. Pour,
c'est ça, réfléchir à la suite, voilà. Quoi, à la
et
stratégie.
Et arrêter de réfléchir à des gâteaux. Parce
et t'arrives justement, parce que c'est ça souvent la difficulté quand on est un peu les mains dans le cambouis, ou tu vois, moi je suis entrepreneur aussi, donc je vois ça. C'est difficile de plus être dans l'opérationnel et de prendre ce temps de recul pour commencer à réfléchir à la suite, à la stratégie, à comment tu vas te développer.
Ouais, c'est pas facile parce que c'est pas notre corps de métier. Mm. On est un peu des couteaux suisses, toi, on doit un peu tout faire à la fois. Après, ce qui me sauve, c'est que je suis très organisé. Donc toi, nous, 6 mois à l'avance, toutes nos collections sont déjà prêtes. Mais là, j'ai mis le pied sur le frein. Si je m'écoute, je fais 10 gâteaux différents par jour. Et à un moment donné, bah, j'épuise tout le monde, en fait. Donc maintenant, j'ai arrêté tout ça. Puis j'ai des cases bien précises. J'ai Michelac Paris, qui est ma famille, mon entité, ma marque. Là, je viens de créer un restaurant qui s'appelle Polichinelle avec mon ami Steve Burgraff. Ça, c'est encore autre chose. Je fais aussi beaucoup de conseils, notamment pour le restaurant La Pérouse. On est en train d'ouvrir un café La Pérouse bientôt sur la place de la Concorde. Donc, il y a tout un travail de conseils qui est lié à ce niveau-là. Il y a mes franchises au Japon qui me demandent un peu de travail, etc. Donc, ouais. En fait, c'est comme tous mes collaborateurs qui me connaissent. Quand vous venez, quand on prend rendez-vous, on est extrêmement rigoureux. On est efficace, on avance, on a un suivi. Voilà, je viens pas à une réunion les mains dans les poches en me disant bon, c'est quoi l'ordre du jour, qu'est-ce qui se passe? Ça, je ne supporte pas. Donc, il faut être très organisé, très rigoureux et respecter justement les personnes qui bossent avec toi.
Bah justement, comme je te respecte beaucoup et que je sais que ton temps est précieux, je vais pas prendre beaucoup plus de ton temps, mais je voulais juste terminer par des petites questions personnelles.
Oui.
Question, est-ce que tu aurais une maxime ou des mots de sagesse, quelque chose que tu aurais envie de partager justement à l'audience sur ton parcours, ce que tu as appris, ce que la vie t'a donné?
Alors, pour faire simple, arrête de pleurer et prends-toi en main. Voilà, ça c'est du... Ça fera peut-être pas plaisir à tout le monde d'entendre ça, mais
non,
à un moment donné, c'est la vérité. C'est-à-dire, si moi j'avais entendu qu'on vienne m'aider et que ma vie soit plus belle, j'aurais pu attendre longtemps. Après, il y a plusieurs phrases que j'aime beaucoup, enfin plutôt des citations.
Ouais.
Parce que tu sais, à un moment donné, quand tu fais beaucoup de télé, etc., tu sens quand même une forme de jalousie. Moi, ça m'attristait parce que je pense que je suis quelqu'un de bienveillant et ça me saoule, en fait, les gens qui te,
le regard, ouais,
qui te définissent. Voilà. Et j'adore Winston Churchill. J'adore ses citations et il disait à un moment donné, on évolue son talent au nombre de ses ennemis. Et voilà, ça m'a fait sourire à chaque fois lorsque je repense à ça et je me dis, bon, ben voilà, tous autant que vous êtes, alors t'as des gens qui t'adulent, beaucoup plus qui te détestent, mais ceux qui te détestent, en fait, tu ne penses qu'à eux parce que
ouais.
Tu te dis, mais pourquoi? Je suis un mec sympa, qu'est-ce qui se passe? Ben en fait, moi, ça me rend plus fort. C'est comme sur un terrain de tennis, vas-y, siffle.
C'est ton côté
siffle-moi,
ouais.
Siffle-moi, tu vas voir. Alors j'en ai un paquet des comme ça. Après, mon Confucius disait toujours choisis bien ton métier, il ne te permettra de ne jamais travailler un seul jour de ta vie. Mm. Ça, j'aime beaucoup. Et une de Victor Hugo qui est vraiment liée à l'esprit de l'image, enfin pas de l'image, de ton style. C'est important d'avoir ton propre style.
Ouais.
Je ne supporte pas le copiage. De copier un confrère, ça m'est jamais arrivé. Je ne supporte pas ça. j'ai trop de respect pour mes potes pour faire ça, donc je n'aime pas ça. Et Victor Hugo, disait « N'imitez rien ni personne, un lion qui copie un lion devient un singe. » Voilà.
C'est génial.
Et ça, j'aime beaucoup cette maxime. Mmh.
Non, mais c'est très juste. Une de tes plus grandes peurs, et comment tu l'as surmontée, si t'en as eu une?
J'ai pas de peur. J'espère que c'est pas prétentieux, hein,
non,
ce que je viens de dire, mais j'ai pas peur. J'ai peur pour ceux que j'aime, mais pour moi, j'ai pas peur. S'il faut se battre, je suis là. S'il y a quelqu'un qui me défie, je suis là. Mais j'ai peur de la maladie, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour mon époux, j'ai peur pour tous les gens que j'aime et que j'apprécie, voilà. Après, moi, c'est moi, quoi. Pas quelque part.
Un échec ou un moment difficile, est-ce qui t'a appris? Alors, tu m'en as parlé un petit peu.
Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, en fait. J'ai pas,
à Kobe, le management.
Les échecs te font avancer. Il y a un truc que disait Alain Ducasse que j'adorais. Il disait, quand tu viens dans mon bureau avec un problème et que t'as pas la solution, c'est toi le problème. Et moi, en fait, ça me faisait sourire.
Énorme.
Je trouvais ça génial. J'étais, ouais. Mais il est trop fort, le type. J'ai toujours gardé ça. Ça me fait sourire. Ça me fait penser à lui parce que le mec, il est incroyable. Et voilà, je trouve que c'est sympa. Ça me fait marrer. De temps en temps, je lis à mes collaborateurs et tout le monde se marre. Mais on repart en disant, bon, voilà,
à
moi
de
trouver
même.
La solution quand même.
Non, c'est sûr. Et puis ça aussi, ça responsabilise les personnes avec lesquelles tu travailles, quoi.
Complètement.
Et la dernière question, les livres que tu recommandes le plus autour de toi ou qui t'ont le plus marqué? Tu me disais que tu avais lu plein de bouquins de management, alors peut-être ça, peut-être d'autres choses.
Alors j'en ai beaucoup. Je vais te citer. Il y a tellement. Je vais te citer un documentaire que j'en parle souvent, c'est When We Were King. C'est un documentaire incroyable dans les années 97-98 sur le match Mohamed Ali-George Foreman à Kinshasa, au Zaïre. Si tu vois ça, tu comprendras qui je suis, quoi. Un mec comme Ali qui est sur le papier ne peut pas gagner contre George Foreman et finalement va étudier son adversaire, va trouver les failles et va réussir à le battre. Voilà, ça j'adore. Et d'ailleurs, toutes les personnes que j'ai formées à des concours, je leur ai offert à l'époque ce DVD.
C'est génial.
Je n'existe plus, je crois. Voilà, et ce documentaire est incroyable. Ensuite, en bouquin, ce que je lis énormément.
Je vois ça, là, il y a une énorme bibliothèque. Alors, beaucoup pâtissière,
oui,
oui. Mais quand même.
En fait, j'ai la même chose chez moi et chez ma maman. Mais non, je lis beaucoup. Je lis sur liseuse depuis quelques années.
Ouais.
Je lis énormément. Je suis une bête à lire. J'adore ça. Et j'adore les podcasts. Hein. J'adore, en fait, plus j'avance, j'ai l'impression que plus je lis, plus j'aime me documenter, m'instruire. Avant, il n'y avait pas Internet, donc tu pouvais dire, oui,
ouais,
tu sais, j'ai pas eu de chance, j'ai pas fait d'études. Maintenant, t'as pas le droit de lire ça. C'est où tu t'affales devant ta télé et tu regardes des merdes. Où tu te dis, bah non, tiens, je vais me documenter sur tel et je vais avancer. Ça, c'est important. Je vais te citer trois livres. Un livre quand j'étais môme, lorsque j'étais plutôt en fin d'adolescence, qui m'a beaucoup plu, Le Comte de Monte Cristo.
J'adore.
Voilà.
Génial.
Alexandre Dumas. Voilà. Bah ça aussi, c'est encore le mec à l'Agnac qui revient, qui va se venger.
C'est fou parce que c'est un vieux bouquin, mais ça a quand même tellement pas vieilli. Tu le lis. Moi, je l'ai lu il y a pas très longtemps. Mais c'est un truc de malade,
ouais.
À quel point tu n'arrives pas à le poser quand même, c'est incroyable.
Ah ouais, non, c'est remarquable,
ouais.
Comme quoi toi on n'a rien inventé.
Ouais.
Alors moi j'ai lu un livre fabuleux qui s'appelle L'Art de la Victoire de Phil Knight. Ah, attention, là, collector, c'est le créateur de la marque Nike. C'est un type qui t'explique qu'il a failli faire faillite 30 fois. Il a créé sa propre, enfin la marque Nike en fait a été créée dans les années 60. Donc au début il envoyait un courrier à ses collaborateurs, après il a connu le fax. Il a connu le mail, puis maintenant c'est des visioconférences. Et c'est fabuleux. C'est fabuleux. Tu te retrouves. Chaque entrepreneur va se retrouver dans ce bouquin. Je l'adore, ce bouquin. Et puis, la musique est très importante dans ma vie. Et tu vois, à chaque fois, j'ai créé un style. J'ai essayé un peu, encore très prétentieux de dire ça, mais un peu comme un mec comme Picasso qui a eu des périodes de sa vie où il a créé un style. La période bleue, la période rose, le constructivisme, le cubisme. Voilà, et à chaque fois, il a su arrêter et repartir sur autre chose.
Et se renouveler aussi.
Pardon ?
Et se renouveler aussi.
Totalement. Et ça, je suis fan absolu. Là, tu couperas, mais tu feras quand tu veux. Mais, je veux absolument qu'on en parle. J'ai lu, je pense, je suis très biographie. J'aime beaucoup les biographies.
Ouais.
Et j'ai lu la plus belle biographie de ma vie il y a quelques mois. Je me demande si je ne vais pas la relire. C'est un énorme pavé. Alors, je lis sur liseuse. Hein. Je me suis aperçu par la
après
suite
que
c'était un
pavé.
C'est la biographie de Paul McCartney,
ah, je l'ai eu,
écrit par Philip Norman. Et c'est là où l'histoire est incroyable, c'est que ce n'est pas McCartney qui parle, c'est le travail journalistique de Philip Norman qui a été tapé à toutes les portes pour se procurer la vraie histoire de Paul McCartney. Mm. Et je peux t'assurer que ce mec-là, ben je pense que dans tous ceux que je t'ai dit, toi, moi, je suis un fou de musique, de sport, de ce que tu veux, je pense que c'est le mec qui pour moi a révolutionné, a changé la vie des gens à travers sa musique. Quand tu regardes l'épopée Beatles, hein, bon, 80%, 70% des choses écrites, c'était lui le meneur, c'était pas John Lennon.
Ouais,
John Lennon était charismatique, magnétique et très doué, mais le mec qui tirait tout le monde, qui faisait la loi pour que tout le monde soit au studio d'enregistrement, qui trouvait les nouveaux sons, c'était Paul McCartney. Et quand il a arrêté les Beatles, le mec s'est dit, je vais créer un autre groupe qui s'appelait Wings à l'époque, je vais refaire des tournées, je vais commencer par des campus, 200 personnes, 1000 personnes, et tout doucement, il a repris tout à zéro. Putain, le mec, mais il est dingue. Et c'est fou, cet homme, ce qu'il a fait dans sa vie, il a pas loin de 75 ans, je crois, il a encore une patate. Il paraît qu'on m'a affirmé que c'est Nagui qui me disait ça sur Taratata, il me disait que lorsqu'il vient, il joue pendant 3 heures, il boit pas une gorgée d'eau, il se lève pas, il va pas pisser, il va rien manger, il reste 3 heures concentré, bam, il fait le job. Et la classe absolue, la gentillesse absolue. Et j'avoue que j'étais vraiment très touché de lire cette biographie. J'en ai lu un paquet, hein. Mais lui, Paul McCartney.
Écoute, tu me donnes carrément envie de le lire, franchement.
Vraiment canon.
Écoute, Christophe, merci mille fois. Si on veut te retrouver, alors évidemment, on va déguster toutes tes pâtisseries dans les boutiques. Je mettrai tous les liens sur le podcast.
C'est gentil.
On va sur le site aussi de Michalak.
Ouais, christophemichalak.com.
Et si on veut te suivre personnellement, ça se passe où? Sur les réseaux sociaux,
sur Instagram,
c'est ça?
Je ne sais plus, c'est Christophe, _ Michalak, un truc comme ça.
Très voilà. Simplement, génial. Mais écoute, merci mille fois pour tout.
C'était un super moment, qui est des moments assez rares, tu vois, de partager des bons moments comme ça. Parce que souvent, ça c'est en off, les journalistes, ils t'écoutent, ils t'enregistrent, mais en fait, quand ils écrivent, je dis putain, mais j'ai pas dit ça en fait, c'est pas la formule que je voulais donner.
Ah bah là, ça va être que tes mots, tu vois.
Et voilà. Bon, après, parfois je m'écoute, je me dis oh là là, j'ai ripé sur tel mot et tout, c'est pas. Mais c'est bien de se dévoiler. Moi, en plus, j'ai pas de bouclier, j'ai pas d'écran.
On voit que t'as pas de filtre, ça,
ouais.
ça fait après, du bon podcast. Ça.
Ouais, c'est ma vie, c'est comme ça. Le mec qui me dit, le mec qui te eut dans la rue, moi je traverse la rue, il s'en prend une directe. Le mec qui tape son chien, j'y vais, je dis oh, tu. Le mec qui remet sa femme, si tout le monde bougeait un peu ses fesses,
ouais.
Si tout le monde était un peu attentionné aux autres, on n'en serait pas là.
Écoute, c'est un bon mot de la fin, je pense.
Bah ouais. Ça, c'était merci pour toi et moi. Hein,
Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités peut-être, ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas. J'adore ça, les feedbacks. Donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo Pelaigneau, @PLAIGNEAU. J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas. Et comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail, le plus simple pour m'aider, c'est tout simplement de mettre soit un petit mot doux, soit une note 5 étoiles sur iTunes ou de partager sur vos réseaux sociaux aussi. Ça donne le moral, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.